Interview.
2 jours.
Contre le JO, donc Lou, vous êtes fait partie de ce collectif. Alors en premier lieu, qu'est-ce qui vous révolte justement sur cette organisation des Jeux Olympiques ?
Moi, je pense qu'il me touche et ce qui me révolte, c'est vraiment l'idée que c'est l'imaginaire d'une montagne qui est dirigée par les ultra-riches et les élites qui s'accaparent du coup ces espaces-là et qui vont en faire ce qu'ils ont envie d'en faire. Et du coup, il n'y a aucune possibilité de pouvoir contrebalancer ça, parce qu'ils ont aussi tout un attirail administratif soutenu par l'État qui permet à ce qu'ils ont... Ils passent outre mesure plein de choses, avec notamment la loi d'exception des JO, et qui leur permettent de passer au-dessus de l'autorisation environnementale, de recours, de machin. Et tout s'accélère, tout pour faire en sorte que ces Jeux Olympiques se tiennent, et tout ça pour vraiment que le CIO, donc le Comité international olympique, qui est basé à Lausanne, en fait, s'en mette plein les poches, parce que tout ça, ça va être fait avec énormément d'argent public, alors que c'est le CIO qui va prendre tout, garder le bénéfice aussi de les retransmissions de TV, des entreprises sponsors. Et du coup, c'est vraiment imaginer que la montagne sert ce CIO pour qu'eux s'accaparent et s'enrichissent avec cet imaginaire-là, et notamment aussi avec l'idée d'en faire un espace publicitaire de voilà, la montagne, c'est le ski, c'est l'or blanc, c'est tout ce qu'on a envie d'y faire, et c'est surtout pas tout le reste qui se passe actuellement. Donc c'est quand même des crises de logement, une crise sociale, un manque de services publics, c'est des espaces ruraux où on est en manque de tout ça et qu'on est en train de fermer plein de services publics, on est en train de fermer des services des transports en commun aussi. Et du coup, fermer tout ça. Et ils utilisent l'argumentaire de dire que les JO vont permettre de redynamiser les territoires. Mais les territoires, en fait, on n'a pas besoin des JO pour les redynamiser. On a besoin de politiques publiques qui permettent d'aller vers des choses qui sont pour le bien des territoires et pour des services publics, des transports en commun, d'autres alternatives, de logements. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer que, en fait, tout l'argent est redirigé seulement pour des équipements sportifs qui sont pour très peu de personnes. Et après, il y a la question sur le corps et qu'est-ce que veut dire l'olympisme, que disait du coup mon camarade Tom.
Avec ce paroxysme des Jeux Olympiques de Berlin hein, de 1936, où le corps était magnifié pour sa force, sa puissance, son esthétique également.
Oui, même bien avant les JO de Berlin, Pierre de Coubertin qui a réimpulsé des Jeux Olympiques modernes, c'est une personne qui croit profondément dans la figure de l'homme musclé, la domination de l'homme sur la femme, la domination de l'homme blanc d'ailleurs. Pierre de Coubertin a eu des relations proches avec Adolf Hitler pendant les JO de 36. D'ailleurs, à ce propos, c'est pendant ces JO de 36-là que la flamme olympique a refait surface. Et en fait, voilà, derrière les Jeux olympiques, c'est aussi toute cette culture capitaliste, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, mais aussi c'est toute cette culture fascisante autour de la cérémonie de la flamme olympique, autour de l'homme musclé, autour de l'ordre... Voilà, c'est tout ça qui fonde les Jeux Olympiques. En fait, c'est aussi ça, l'héritage des Jeux Olympiques, que très peu de gens osent aller regarder. Et c'est en ça que, pour moi, c'est très, très important de faire preuve de discernement et d'esprit critique et de se dire l'olympisme, ce n'est pas le sport. L'olympisme, c'est un dévoiement du sport. L'olympisme, ce n'est pas l'activité physique. L'olympisme, ce n'est pas la bonne santé. L'olympisme, c'est la domination des uns sur les autres. Et l'olympisme, c'est le gaspillage de l'argent pour le sport business.
Faites votre jeu, messieurs, dames, s'il vous plaît.
Tom et Lou du collectif Nous aux Jeux dans les Alpes 2030, propos enregistrés
lors du Makistan le 6 juin 2026 à Vassieux en Vercors.
Faites votre jeu, messieurs, dames, s'il vous plaît.
D'ailleurs, le terme même sport, on pourrait peut-être parler de son origine, parce que c'est une activité plutôt moderne. Je ne sais pas s'il existait des sports au Moyen-Âge, à la Renaissance, encore même au 19e siècle.
Oui, le sport, en fait, il existait des activités physiques au Moyen-Âge. Je pense à l'ancêtre du football, la soule. Le sport est arrivé quand on a commencé à codifier certaines activités physiques. Et donc le sport, c'est une activité physique codifiée avec un règlement, avec une fédération, etc. etc. Donc pour moi, c'est hyper important de faire la distinction entre l'activité physique, ce qu'on peut faire au quotidien, qui est accessible à tout un chacun, qui peut être populaire, le sport qui peut être aussi populaire, où on fait tous la même pratique autour de règles communes, et l'olympisme, pour moi, qui n'a rien à voir avec ça, qui est un dévoiement du sport au service des puissants et au service de la domination des plus faibles.
Il y a un public contre ces Jeux Olympiques de 2030. Comment se démarque-t-il ? Comment se signale-t-il auprès d'une population, auprès dans la réflexion également ? Vous en êtes une émanescence, vous-même, avec votre collectif. Est-ce que ça donne lieu à des organisations comme la vôtre, disséminées dans la région ?
Oui, je pense que déjà, il faut rappeler que pendant longtemps, en fait, il n'y avait pas d'informations sur la tenue de ces JO de 2030 dans les Alpes et qu'il n'y a pas eu, normalement, avant une candidature, l'État est censé demander l'avis des habitants concernés et du pays, parce que c'est quand même... nous, on considère que c'est un projet étatique vu l'importance aussi de l'argent public engagé. Mais en fait, il n'y a jamais eu de concertation et du coup, il n'y a jamais eu de transparence aussi au niveau parce qu'ils avaient juste rien préparé et ça a été une candidature accélérée par le CIO parce que les deux autres candidats qui étaient, je ne sais plus, mais en tout cas, se sont retirés parce qu'ils ont demandé l'avis à leur population qui ont dit non dans des référendums. Et nous, ça n'a pas été le cas. Et du coup, pendant très longtemps aussi, il y avait très peu d'informations. Donc je pense que pendant longtemps, il y a eu des mouvements de personnes qui ont juste essayé de comprendre ce qui se passait à petite échelle, dans le sens où les JO de 2024 venaient de se passer et qu'ils ont largement utilisé le discours de « oui, ça a été super, ça a été génial, ça a été populaire », alors que dans la réalité, on voit qu'il y a aussi plein de choses, qu'il y a dans tous les cas plein de choses à questionner et que ça c'est pas le cas. Mais du coup, on était dans cette vague de médiatique ensuite des JO 2024, plus le fait que nous, il y avait très peu d'informations, très peu de transparence sur ce qui allait se passer, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas. Ils avaient juste signé un peu, ils allaient signer quelque chose sans savoir, ils n'avaient pas écrit les contrats dans lesquels ça stipule vraiment légalement qu'est-ce qui allait se passer et tout. Et du coup, je pense que ça a été beaucoup de réunions d'information, de soirées, on essayait de suivre. Et il y a notamment un collectif qui est le collectif citoyen, qui a beaucoup suivi l'aspect juridique et qui s'est monté en faisant des recours juridiques et qui a notamment pu pas mal visibiliser du coup certaines informations et qui ont permis à pousser l'État à transmettre des informations. Parce qu'ils ont notamment fait un recours, ils ont fait appel à la Convention d'Aarhus qui oblige l'État à rendre transparent et public, ce qu'il ne le faisait pas. Du coup, ce qui a permis aussi notamment à la Solideo, la Solideo, c'est ceux qui ont la maîtrise d'ouvrage de tous les équipements et infrastructures, et du coup de les forcer à mettre sur leur site internet les informations prévues, sachant qu'aujourd'hui on est en 2026 et ils n'ont toujours pas fait l'annonce des sites officiels qui va se passer en juin, là, qui va incessamment sous peu. Et du coup, il y a quand même beaucoup de manque d'informations. Donc voilà, je pense qu'il y a eu plein de petites... dans les villages aussi concernés, où il va y avoir des villages olympiques, parce que du coup, il va y avoir trois villages olympiques qui sont sûrs, à Briançon, à Saint-Jean-de-Sixte et à Beauzelle. Et il y en avait un à Nice, mais là, Nice, c'est en train de tomber. La patinoire aussi, c'est en train de tomber. Donc peut-être qu'il n'y aura que trois villages olympiques, ce qui est déjà énorme, en fait, parce que d'habitude, c'est un village olympique. Là, ils veulent en faire trois, avec tous les sites aussi. Du coup, il y a tous ces sites-là, et dans les villages, en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont quand même... Il y a eu des réunions publiques par les mairies, qui ont tenu, certaines mairies, qui ont tenu un peu pour rendre publiques les infos de construction, notamment à Beauzelle, sur l'ascenseur Valéa entre Beauzelle et Courchevel. Donc je pense qu'il y avait des personnes concernées qui ont commencé à créer des liens, à créer des groupes WhatsApp, mais c'était très informatif. Et beaucoup de gens pensaient en fait que ça allait pas forcément se passer, que c'était un peu une blague aussi. Enfin, je pense qu'il y a eu longtemps ça. Là, aujourd'hui, même il y a encore des gens qui nous demandent, qu'ils nous voient, ils se disent mais ça va pas vraiment se passer. Enfin, ça arrive encore aujourd'hui, alors qu'on est quand même à 3 ans, parce que c'est pendant l'hiver 2029-2030. Donc en fait, on est à 3 ans des JO quasi.
Très clairement, les gens ont été empêchés de savoir, et les gens le sont encore aujourd'hui. Et ça, ça pose extrêmement question sur la santé de la République en France. On n'est pas du tout dans quelque chose de public, là. On n'est pas du tout dans quelque chose de public. On est dans du magouillage entre certains acteurs et certaines actrices privées, avec certaines accointances, avec des politiques ou des politiciens plus ou moins véreux publics. Voilà, pour le profit d'une toute petite quantité. Voilà, c'est ça qui se passe. Et donc, les personnes sont privées du savoir. Et c'est extrêmement compliqué. Et ça rend, du coup, l'information et la maîtrise de ce qui va se passer extrêmement complexe. Et ça rend aussi, du coup, la mobilisation très, très complexe. Et moi, je pense que tout ça, c'est voulu. Ça peut pas être autrement. C'est voulu. Parce que quand on commence à mettre le nez dedans, c'est tellement scandaleux que qu'en fait, ouais, moi ça m'étonne pas qu'ils fassent ces choix-là. C'est tellement crasseux ce qu'ils nous organisent que c'est pas étonnant que ce soit aussi peu transparent.
Alors là, la machine est lancée, hein, on peut dire, puisque la date est arrêtée pour 2030. Est-ce qu'il y a, comme je vois sur cet accrochage de cartes des saccages des Jeux Olympiques de Paris 2024, est-ce que vous êtes aussi en train de constituer cette carte avec les propositions ou peut-être les prévisions qui vont être opérées pour les Jeux Olympiques et savoir opérer un état des lieux, hein, des situations, notamment il y a cette histoire de l'eau qui disparaît, la neige qui fond, donc ça c'est typiquement aussi la politique de Laurent Wauquiez, de vouloir persister avec ces montagnes enneigées en utilisant l'eau de source pour les transformer en neige. Donc il y a aussi, ça permet de servir l'ambition politique, hein, de certains également.
Oui, je pense que oui, on est en train de suivre un peu quelles annonces ils font, quel argent ils pensent mettre dessus, quels sont les coûts économiques des infrastructures. Parce que là, on a parlé, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les villages olympiques qui vont être des grandes structures, soi-disant pour du logement après, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Et on voit qu'à Paris, justement, à des moments, là, c'est pas tourné en logements non plus sociaux. Il y a les équipements sportifs, du coup, l'aménagement ou la construction de nouveaux équipements. Mais il y a aussi tout ce qui est la question des routes et des infrastructures type parking, route, aménagement de giratoire, aménagement d'une troisième voie à Briançon et entre Briançon et Serre Chevalier, ils veulent construire une troisième voie à un endroit où il n'y a même pas de place pour ça, où il y a des commerces, il y a juste des gens qui vivent. Et donc, c'est tous ces aménagements aussi, c'est vraiment l'entreprise du BTP. Donc là, on imagine vraiment tout autour de comment faire ces constructions pour un seul temps. Et en fait, ces saccages, c'est sûr qu'ils sont pluriels. Et la question de la neige, j'ai l'impression que limite elle est annexe, parce que de toute façon ils vont toujours avoir la réponse de vouloir faire de la neige de culture et d'artificialiser cette montagne pour qu'elle puisse répondre à ses exigences. Même il y a eu des JO, on a vu que c'était les pistes enneigées avec tout du vert autour. Et en fait, c'est aussi des constructions d'imaginaire où en fait on continue de véhiculer cette image de tant qu'on pourra faire fonctionner de la neige de culture, on aura cette neige, ce qui est quand même un coût énergétique, économique incroyable pour très peu de personnes. Donc il y a un peu moi je pense que c'est des jeux de tout ça, mais la neige, c'est pour eux, c'est une question annexe. Eux, c'est tout l'imaginaire qu'ils veulent poursuivre et toutes les infrastructures qu'ils veulent construire avec leurs amis et, de tirer ces sens-là et faire fonctionner l'entreprise du BTP en France à tout va, avec les grosses entreprises qui vont pouvoir se faire plaisir. Parce que souvent, ils disent que c'est des entreprises locales qui vont pouvoir travailler avec des personnes locaux. Mais non, en fait, souvent, on voit que les marchés d'offres, du coup, ça va être repris par des grosses entreprises qui ont la capacité de le faire. Enfin, c'est...
Est-ce que il y a, vous parliez de certains villages qui informent hein, leurs habitants sur les projets. Est-ce qu'il y a aussi une montée de réaction par rapport à cette organisation issue de villages, ou parfois est-ce qu'il y a des personnalités politiques aussi qui tentent de renverser un peu cette, ou de freiner du moins ces ambitions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer également.
Des conseillers régionaux, des conseillères régionales, il y a des députés qui se posent des questions, qui posent des questions et qui sont présentes, surtout à gauche, essentiellement à gauche.
Et écologistes.
Mais et ouais, bien sûr. Mais en moi, l'impression que j'ai dans l'effet que ça a sur les citoyens et les citoyennes, c'est plutôt un fort sentiment d'impuissance. Et moi, en fait, c'est ça qui me révolte. Comment ça se fait qu'on en arrive à un sentiment d'impuissance aussi fort sur un sujet aussi important dans l'organisation de la vie collective française? On parle quand même de JO, on parle quand même de millions d'argent public, et il y a un sentiment d'impuissance extrêmement fort. Nous, on se déplace dans les territoires et dans les villages pour aller au contact des personnes et les questionner. De quoi vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous savez? Comment vous vivez la montagne? Quel avenir vous pensez avoir dans cette montagne à l'heure des Jeux Olympiques? Bon, les réponses qu'on nous donne, c'est on sait pas trop. On ne sait pas trop. Par contre, il y a une chose qui est extrêmement visible, et c'est là, maintenant, tout de suite, c'est une explosion du coût du mètre carré. C'est des personnes qui sont poussées à l'exode, donc qui sont poussées des montagnes pour pouvoir faire venir des personnes plus riches pour le tourisme. Et on est dans, pour ce système-là de consommation de la montagne jusqu'à la dernière goutte. Et donc, des personnes qui sont nées, qui ont grandi, qui ont vécu dans la montagne, aujourd'hui sont poussées à s'exiler dans les plaines parce que ça ne devient plus soutenable financièrement pour elles. Ça, c'est une personne qui nous le racontait à Bozelle. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on a pu voir aussi, c'est un agriculteur qui va être exproprié de ses terres pour pouvoir fabriquer un parking. Bon, ben, il est seul. Il est seul. Et en fait, c'est ça, le sentiment dominant et qui me révolte et qui va me pousser à l'action. Je ne peux pas supporter l'impuissance et la solitude. C'est trop anormal, c'est trop injuste. Et donc, éthiquement, on sera obligé d'apporter une réponse à la hauteur de ce qui nous est imposé.
Alors, vous parliez justement d'être submergé, d'être dépossédé, hein, de pouvoir réagir. Ma question était, est-ce qu'il existe une structure, une entité qui puisse permettre de vous référer ou peut-être de centraliser un peu toutes ces constatations?
Et non, et parce que je pense que aussi, donc là, ce que je voulais dire à la suite de mon camarade, c'est quand même que nous, on a décidé de s'organiser collectivement pour répondre à cette impuissance, pour justement ne pas rester non plus nous isolés dans la... Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui savent tout ça, qui sont là, c'est un rouleau compresseur en fait, les JO qui arrivent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Bah justement, s'organiser collectivement, essayer de commencer par faire du lien et tout ça. Mais du coup, non, il n'y a pas forcément un truc central, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de réponses différentes et plein de méthodes d'action qui vont être différentes selon les personnes, ce qui est super parce qu'en fait, il faut de tout. Et même si des fois c'est difficile de s'accorder, de faire du lien et de connaître un peu ce que fait chacun, chacune dans les différents collectifs, mais dans tous les cas, il y a des différentes réponses et c'est super que ça vive. Après, voilà, oui, c'est en vrai, c'est du militantisme, donc on fait ce qu'on peut aussi et on essaye de largement quand même faire du lien et quand même on suit un peu ce qui se passe, hein. Il y a des manières de suivre quand même ce qui se passe, mais il n'y aura pas un organe, parce que je pense que nous aussi c'est pas nos modes d'action de vouloir un organe très centralisateur d'information, après chacun
Donc il n'y a pas de site internet par exemple
Alors, il y a plusieurs sites internet,
oui.
Mais il y a un site internet nos-jo.fr qui a pendant longtemps, il n'est pas très à jour, mais il existe. Et après, il y a des sites, il y a le site du collectif citoyen, et après, il y a des relais sur les médias, des actions, des choses comme ça. Il y a des newsletters aussi. C'est différents moyens.
Est-ce que vous avez pu constater avec ce projet donc de Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a une possibilité? Vous parliez d'un manque de transparence, hein, dans les décisions, dans l'organisation. Parce que malgré tout, il y a une demande d'une population de vouloir s'informer auprès de ces organisations pour connaître un peu leurs projets. Est-ce qu'ils trouvent réponse à leurs questions, justement ?
C'est assez difficile à dire. Je pense que le mieux, ce serait de poser directement la question aux personnes. En tous les cas, nous, ce qu'on a envie de soutenir et ce qu'on a envie de porter, c'est de dire aux gens de discuter avec leurs voisins, de discuter avec leurs voisines, de discuter avec leurs tantes, de discuter avec leurs oncles, de prendre compte, de discuter de quel niveau de conscience les personnes ont des Jeux Olympiques, de créer des réseaux de solidarité, de prendre des initiatives, d'être curieux, d'être créatif et d'oser faire. Oser penser, oser dire, oser faire, se mettre en lien. Et même à 3, 4, on peut faire des choses. Se renseigner, se former, et puis partager les informations. Et ça, c'est à la portée de toutes et tous. Nous, c'est comme ça qu'on voit notre action. C'est allons-y, partout et tout le temps.
Marquer les mentalités, c'est aussi un procédé que vous souhaitez organiser à l'approche de ces jeux. Par les médias, est-ce qu'il existe un groupe de presse qui pourrait être susceptible de porter vos voix à l'écoute?
C'est en cours de réflexion, on va dire, mais je pense que marquer les mentalités, c'est un des sujets forcément, mais il y a aussi un sujet, arrêter ce qui est en train de se passer. Et du coup, arrêter, oui, ça passe par la visibilisation, mais ça passe aussi par s'organiser en présentiel avec des gens qui sont motivés. Et parce que les médias, c'est souvent aussi jouer un jeu qui nous est dévoué des fois, qui ne va pas forcément dans notre sens, parce que ce qu'on dit va être pris d'une autre manière. C'est compliqué. On n'est pas des professionnels de communication, en fait, et on n'aime pas ça, dans ce collectif, en tout cas. Et du coup, il y a un gros sujet là-dessus de est-ce qu'on fait toujours le jeu des médias ? Non, on fait aussi le jeu de jouer dans nos médias libres, indépendants, et de pas forcément, et de d'autres manières, faire du lien avec des gens qui vont avoir plus d'accès à cette visibilité. Par exemple, on a fait récemment des actions dans le cadre du Printemps des Luttes, qui était coordonné notamment par les soulèvements, qui avaient lieu du 23 au 26 mai, où on a pu, à différents endroits où les JO de 2030 ont des liens, manifester du coup notre désaccord. Et du coup, voilà, par ces moyens d'être dans l'orga d'autres structures. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait aussi du lien avec d'autres collectifs. Mais voilà, du coup, nous, on a quand même aussi tout un enjeu de vouloir arrêter ce qui est en train de se passer et de se préparer un peu à ce rouleau compresseur, notamment qui va toucher des libertés individuelles et des situations. Notamment, c'est pour ça qu'on est aussi ici au Makistan sur la question migratoire, quoi, et les personnes en parcours d'exil.
C'est un cursus universitaire, une formation professionnelle, une activité professionnelle qui vous engage dans ce combat?
C'est un peu tout. Je pense qu'il y a différents profils, en vrai, il y a un peu de tout. Hein. Je pense qu'on peut dire un peu de tout à chaque fois. Il y a des parcours professionnels, il y a des parcours de personnes qui travaillent en montagne, il y a des parcours de vie parce que juste on a grandi à la montagne, il y a des parcours de cursus universitaire, en effet aussi peut-être, mais vraiment il y a de tout.
Ouais, et puis il y a aussi des parcours alternatifs au-delà des parcours professionnels capitalistes qu'on entend classiquement. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout faire.
Voilà. Et en fait, la lutte, ça serait les après JO. Qu'est-ce que vont devenir toutes ces structures, ces logements? Est-ce que ça, c'est un autre combat à préparer aussi, une autre lutte à préparer pour réapproprier ces espaces?
Oui, mais encore une fois, je pense que nous, on est encore dans des étapes où là, on veut arrêter avant que trop d'infrastructures se fassent. Vraiment, pour moi, il y a aussi une lutte d'imaginaire. À chaque fois, on nous demande, vous êtes des anti-tout, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a un imaginaire à se créer, de dire, en fait, on a le droit d'être contre juste cette chose-là. Et on ne va pas vous créer cet imaginaire. Cet imaginaire va se créer dans les territoires, avec différentes personnes, mais ce n'est pas au collectif de répondre forcément à ça. Pour moi, là, l'important et la réflexion, c'est d'arrêter les infrastructures qui vont se faire, l'impunité de ces élites qui font tout ce qu'ils veulent, et de jouer là-dessus. dessus. Et l'héritage qu'on aura, et ben, peut-être de se le réapproprier de plein de manières différentes, que ce soit de squatter ces endroits, que ce soit d'en faire vraiment des choses utiles pour les territoires, ce serait hyper intéressant. Mais encore une fois, je pense que la première chose n'est pas à imaginer ça, parce qu'on n'en veut pas déjà maintenant, quoi.
Lou et Tom, merci beaucoup.
Hein, merci votre... à vous.
Et vous avez un contact vous-même?
Oui, le, bah, le
une adresse mail.
L'adresse mail du collectif qui est nojoalpes2030@protonmail.com.
D'accord. Vous avez un logo ou un visuel?
C'est une petite marmotte qui mord les anneaux des JO, qui va les déchiqueter. Et c'est écrit non aux JO dans les Alpes.
On peut trouver ça sur Internet, cette image?
Oui, c'est sur le site no-jo.fr. On a un endroit, normalement, où ça répertorie les affiches et les stickers. Mais il faut qu'on le remette à jour, parce que je crois que ça ne fonctionnait plus. Mais il y a un endroit où il y a ça.
Thank you. Thank you.